Nathalie Perrin,
Isabelle Raviolo.
Bienvenue à tous les auditeurs de Radio Aligre pour l'émission Philosophie au présent. Bonjour Isabelle.
Bonjour Nathalie.
Bon, merci à tous d'être là et de nous écouter. Merci à Radio Aligre qui reçoit le Collège International de Philosophie en bimensuel pour cette émission qui s'appelle Philosophie au présent, un partenariat qui a maintenant presque 3 ans entre le Collège International de Philosophie et Radio Aligre. Merci à tous. Et aujourd'hui, on a l'immense plaisir de recevoir une de nos collègues. Hein, Stéphanie Ronchevski-Degore. Stéphanie, voilà pour les intimes.
Bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour Stéphanie.
Et Stéphanie, voilà, tu es directrice de programme au Collège International de Philosophie, comme nous. Et tu nous as proposé une émission aujourd'hui avec l'auteur Yann Diner. Alors, c'est toi qui as eu l'idée de cette émission. Alors, nous te laissons la parole. Alors, peut-être au départ pour présenter Yann Diner à nos auditeurs, qui nous fait l'immense plaisir d'être là. Merci beaucoup Yann.
Bonjour,
merci.
Bonjour Yann.
Et voilà, pour parler d'un livre qui t'avait beaucoup touché, livre dont tu as eu l'occasion de parler dans ton propre séminaire au Collège International de Philosophie.
Alors bon, d'abord, merci beaucoup de nous accueillir ici. Vraiment, je suis ravie. Et alors, je vais vous raconter comment j'ai connu Yann Diner. En fait, ça a commencé... lorsque je faisais des recherches sur l'agitation des enfants, en fait, j'étais partie de quelque chose d'assez étonnant. C'est cette observation que les enfants turbulents, agités, étaient maintenant qualifiés d'hyperactifs, de porteurs d'un trouble TDAH. Et en fait, lorsque je faisais des recherches sur cette agitation, je suis tombée sur ce livre de Yann Diner, « On agite en enfant », donc il a écrit en 2011. Et c'est comme ça que j'ai découvert Yann Diner, qui est donc psychanalyste d'abord, écrivain et aussi chroniqueur à Charlie Hebdo. Alors, effectivement, dans ce livre, j'ai pu comprendre que... tout ce qui est de l'ordre de ce diagnostic est vraiment encouragé par les institutions, s'inscrit dans une logique de normalisation, de l'évaluation généralisée et se fait en parallèle avec le développement de l'industrie pharmaceutique qui cautionne en fait la création de nouvelles maladies afin de mieux les traiter chimiquement, en particulier avec la Ritaline. Alors la Ritaline, c'est un médicament qui n'est pas anodin, qu'on donne à beaucoup d'enfants et qui s'appelle, et c'est là que ça m'a aussi interpellée en tant que professeur de philosophie, qu'on appelle aussi la pilule de la sagesse. Voire même, j'ai vu dans un article du Monde diplomatique, la pilule de l'obéissance. Bon. Alors,
comment s'est fait cette relation avec l'ouvrage de Yann Diner, Notre langue quotidienne informatisée ?
Alors, j'y viens parce que dans ce livre, on agite un enfant. Il y a une étude en fait de l'évolution de la psychanalyse et des menaces même qui pèsent sur la psychanalyse à partir d'une analyse de cette nouvelle langue, hein, la LMS, le langage médico-social. Donc il y a déjà toute une étude sur le pouvoir du langage et effectivement c'est un domaine qui m'intéresse particulièrement, hein, le langage, c'est vraiment ce qui est central dans le programme de terminale en philosophie. Hein. Et donc, par rapport à cet ouvrage, puisque je vais venir évidemment au livre qui nous intéresse, mais LQI, Notre langue quotidienne informatisée, évidemment, va dans la continuité. Ce livre est fait sur le modèle... donc ce livre est sorti hein, cette année. Il est fait sur le modèle de l'ouvrage de Victor Klemperer, LTI, hein, la langue du Troisième Reich, qui est fait sous forme de journal, d'essai, un petit peu à la manière de Montaigne, hein, où on part d'éléments du quotidien et on va mener une réflexion à partir de là. C'est une réflexion qui nous montre dans quelle mesure, justement, notre langue, en fait, est complètement imprégnée du nouveau vocabulaire issu de l'informatique, hein, du numérique.
Oui, un vocabulaire de type, je ne sais pas, oui, je suis connectée avec toi, ou on est connectés ensemble pour se dire qu'on se...
Voilà, voilà, qu'on partage. Il faut débrancher.
Choses, il faut débrancher.
On se programme une soirée. Voilà, voilà. Donc il y a tout un tas de mots au quotidien qui, sans même qu'on s'en rende compte, en fait... vont influencer notre manière de parler, hein, vont rentrer, vont se banaliser et vont, je pense, et c'est ça, c'est là que ça devient intéressant, vont même imprégner notre manière de penser.
Oui.
Alors, j'ai pu suivre un séminaire, donc Yann, que tu es en train de faire, qui va bientôt se terminer, mais que tu vas peut-être encore poursuivre l'année prochaine, qui s'appelle « La mâchoire de Freud ». Alors, c'est très original.
Et ça se passe où, ce séminaire ?
À l'école lacanienne de psychanalyse.
Wow.
Je vous donnerai l'adresse.
Ouais, voilà. Ça sera bien.
Alors là, tu fais le parallèle, justement, entre la prothèse de Freud. Hein. Freud avait un cancer de la bouche et il était obligé de mettre plein de prothèses. Et c'était terrible parce que ça l'empêchait de parler. Hein. Donc, c'est quand même un petit peu difficile pour un psychanalyste. Et tu montres, en fait, que cette... Enfin, tu fais un parallèle avec toutes nos prothèses linguistiques hein, que... qui font référence à notre langage quotidien complètement imprégné de ce jargon informatique. Hein, donc, tu fais une critique de cette novlangue hein, en fait, à partir d'études aussi des textes d'Orwell hein, qui a inventé ce mot. Et donc, effectivement, c'est riche en références, riche en actualité. Alors, voilà, donc ça, c'est ce qui m'a amené évidemment, à lire ce livre, hein, qui est sorti il n'y a pas si longtemps.
Et peut-être qu'on pourrait... bon, peut-être que Yann Diner, ici présent, et merci d'être venu, pourrait nous dire pour quelles raisons tu as eu envie d'écrire sur ce, finalement, ce nouveau langage, celui qui vient un peu structurer notre communication.
C'est parti de la parole de patient que j'entendais de plus en plus fréquemment imprégnée de ce vocabulaire informatique et qui, à mon avis, c'est l'hypothèse du livre avec QI, n'organise pas seulement notre langage, mais a des effets aussi sur notre pensée, sur notre rapport aux autres. C'est-à-dire... Si on ne s'en rend pas compte tous les jours du vocabulaire qu'on utilise, il a quand même une forme assez homogène avec la visée de l'informatique, c'est-à-dire ça organise, ça structure d'une manière binaire les rapports entre les objets, entre les personnes. Donc, mon hypothèse, c'est que ça binarise un peu plus nos relations. L'homme n'a pas attendu l'informatique pour avoir des raisonnements binaires et un peu simpliste, mais je pense que ça accentue des positions identitaires qui on est ou on n'est pas membre d'un club, d'une identité, d'une couleur.
Est-ce que c'est, parce que c'est intéressant, c'est dans le cadre finalement de ta patientèle, c'est un symptôme alors ? C'est un symptôme de quelque chose, ce nouveau langage ?
C'est même quelque chose qui complique la possibilité qu'on a chacun de faire des symptômes, parce qu'un symptôme, ça reste quelque chose de singulier, d'une construction personnelle. Mmh. C'est par exemple, ou un lapsus, c'est faire... C'est se construire quelque chose qui nous aide à nous sortir justement d'une langue dans laquelle on est coincé, d'une langue familiale, c'est-à-dire d'expression, d'habitude langagière dans laquelle on est pris. Et la singularité du sujet fait qu'il va se débrouiller à faire un symptôme qui est original, même s'il est proche du symptôme d'autres, mais où un lapsus est complètement singulier. Mmh. Et bien, même sur le divan, on se rend compte que quelqu'un qui vient justement pour essayer de se sortir d'un carcan se retrouve pris de plus en plus, à mon avis, dans l'usage qu'on a tous, hein, mais de cette novlangue. Alors, on utilise des mots qui viennent du commerce, enfin, je cherche le terme
du marketing, de la publicité,
beaucoup de vocabulaire qui viennent de militaire, de plus en plus. qui sont passés par le marketing. Le briefing, par exemple, c'est un terme qui au départ était militaire. Et puis maintenant, on brief une équipe. Et ça passe même dans la bouche de quelqu'un qui essaye de dire quelque chose, de s'en sortir en disant quelque chose de ses affaires à lui. Donc, par exemple, le terme « programmer un rendez-vous », il faut qu'on reprogramme le rendez-vous au lieu de dire « prendre un rendez-vous ». Ou comme vous disiez, effectivement, je ne suis plus connecté à mon analyse. Lacan disait déjà, faire une analyse, c'est être abonné à son inconscient. Maintenant, on dit qu'on est connecté ou pas à son inconscient. C'est des métaphores qu'on n'entend pas, comme disait Stéphanie, mais qui ont des effets parce que ça fait penser qu'on est effectivement, au bout d'un moment, comme des machines. C'est-à-dire, si on parle comme une machine, eh ben, on va se trouver des solutions entre nous qui sont des solutions de machine.
Mais alors ça pose du coup la question de la parole de soi, c'est-à-dire que finalement c'est pas son propre langage qu'on essaie de trouver pour parler, c'est des ordres intimes ou intérieurs, mais finalement avant même d'essayer de se parler, on a déjà parlé pour nous, c'est un peu ça qui est...
On est de toute façon... C'est même l'hypothèse de la psychanalyse. On est parlé par un discours, par le discours d'une famille. On est pris dans un bain de langage. Dolto avait sa manière de le dire quand elle parlait aussi de bain ou de qu'un enfant était, elle disait, parler avant même de prendre la parole. C'est-à-dire qu'on dit tellement de choses sur nous avant même notre naissance qu'on est parlé plus qu'on ne parle. Alors on essaye de prendre la parole. Il y a des personnes qui renoncent ou qui essayent même pas. L'autisme, c'est quelqu'un qui décide plus ou moins. De ne pas s'engager dans ce risque-là, qui est de se tromper. La parole, c'est un risque, c'est pas seulement à la radio.
Tout à fait.
Hein, quand on dit quelque chose, ça a des conséquences, et ça peut faire peur. Ou alors on peut parler tout bas, ou on parle que dans certaines conditions, ou on ne parle pas quand on est à l'école, on parle pas... C'est pas si simple, la parole. On considère que c'est évident, mais bon, y a beaucoup d'embrouilles, beaucoup de malentendus. Homo sapiens, c'est gagné beaucoup avec la parole, ça lui a permis de conquérir toute la planète et de la détruire, mais il y a aussi eu beaucoup d'avantages, c'est donc de s'adapter beaucoup plus que d'autres espèces. Et mais en même temps, il y a eu beaucoup d'avantages, c'est qu'il a fallu traduire, parce qu'on n'a pas parlé tous tout de suite la même langue. Maintenant, on a une langue universelle, l'informatique, ou l'anglais, ou cette nouvelle langue, cette LQI, mais je l'appelle la langue quotidienne informatisée. Mais comme il y a des... langage et des langues très différentes, ben ça fait beaucoup de guerre, parce que ça fait beaucoup de malentendus.
Bien sûr. Alors Stéphanie, on te redonne la parole, parce que tu es à l'origine de cette émission aujourd'hui, de cette proposition d'inviter Yann Diner pour son ouvrage « Notre langue quotidienne informatisée », qui est sorti cette année, tu nous disais.
En février, aux belles lettres.
Voilà, aux belles lettres.
Je vais continuer ce que tu es en train de dire. Justement, moi, ce qui m'a particulièrement intéressée, c'est cette analyse que tu fais du langage qui, s'il est de plus en plus informatisé, laisse de moins en moins de place à la métaphore, à l'analyse des signifiants. Et tu montres, t'expliques, enfin, tu peux peut-être réexpliquer comment, justement, dans le langage informatique, il y a, à un moment donné, tu montre qu'il y a de plus en plus de sens partout. Hein. Quand tu fais, par exemple, ton analyse de cette adolescente virtuelle taille qui devient complètement dingue à la fin et qu'on a dû débrancher, hein, qui, grâce au deep learning, se met à apprendre une langue et qui, à la fin, dit absolument que des horreurs. J'ai trouvé ça intéressant et cette réflexion qu'il y a à travers ce livre, cette réflexion avec, qui s'appuie vraiment sur des exemples du réel, finalement, c'est la question, c'est une question que moi j'ai vue, c'est un des sujets qui est tombé à la grecque de philo, c'est penser, est-ce calculer ?
Penser, est-ce calculer ?
Oui, c'est tombé comme sujet à la grecque de philo une année, bon, il y a fort longtemps, mais je me suis dit, on est en plein dedans aussi. Et ce que je trouve aussi intéressant et que je constate de mon petit point de vue, mais c'est que le fait que on cherche à avoir un langage binaire comme ça, en fait, ne laisse plus de place non plus à l'humour. Et ça devient de plus en plus difficile d'avoir de l'humour. Et ça m'a fait penser, en fait, au livre aussi de Houellebecq, La possibilité d'une île où on crée des hommes, enfin, clonés, quoi. Mais le gros problème de ces êtres artificiels qu'on a créés, c'est que, justement, ils ne comprennent pas du tout ce que c'est que le sens de l'humour. Enfin, c'est pas pour parler de ce livre-là, mais c'est pour parler, justement, de l'impossibilité en fait de l'humour et de la difficulté qu'on a de plus en plus. Enfin, il faut être courageux aujourd'hui pour faire de pour être animer les choses avec humour, quoi. Donc voilà. Ça m'intéressait aussi beaucoup.
Ça fait partie des possibilités et des risques de la parole. C'est de quand on fait un trait d'esprit, c'est un double tranchant. Ça peut rapprocher, comme ça peut beaucoup éloigner, parce que ça peut être c'est très fort un mot d'esprit. S'il y a de la libido, comme disait Freud, c'est une décharge de libido. Ça peut ou faire passer un peu plus ce qu'on veut dire, mais d'une manière détournée, ou bien ça peut vexer, ça peut, donc c'est explosif. Mais effectivement, vous avez parlé de prothèses tout à l'heure. Avant de parler de novlangue, George Orwell avait 2 ans avant d'écrire le terme newspeak, novlangue dans son roman 1984, dans un article sur le langage, deux ans avant, en 1945, Orwell avait parlé de prothèses verbales. Il parlait et qualifiait de prothèses verbales des formules répétées par les hommes politiques ou les journalistes politiques en 1945 pour décrire de manière stéréotypée, automatique, des situations complexes. Donc il crée cette expression pour dire que c'est quelque chose qui va nous donner l'illusion de mieux nous en sortir d'une difficulté. Comme disait Freud, les prothèses donnent à l'homme l'illusion de s'améliorer sur le plan cognitif, sur le plan de la connaissance ou sur le plan physique. Freud, dans son grand texte de 1930 qui s'appelle « Malaise dans la civilisation », a un long chapitre sur les prothèses. C'est impressionnant parce que quand je l'ai relu, c'est en partie ce qui m'a donné envie de faire ce séminaire que tu évoquais tout à l'heure, « La mâchoire de Freud ». Il s'intéresse beaucoup aux prothèses. Freud, il donne l'exemple tout simple, des lunettes, ce qu'il appelle prothèses, c'est les télescopes et les microscopes, mais des objets plus quotidiens, les lunettes, tout ce qui va nous donner, tout ce que le sapiens s'est fabriqué pour se donner l'illusion de s'améliorer. Il parle d'illusion parce que il dit que ça a l'inconvénient que quand on ne les a pas avec nous, on se sent mal, ou qu'on peut mettre beaucoup d'argent et dépenser beaucoup d'énergie pour fabriquer ces prothèses, en oubliant certaines fois qu'on pourrait faire autrement. Il qualifie même l'homme d'un prothesen god, d'un dieu prothétique. Il dit que l'homme est devenu un dieu prothétique. Et il a cette expression, il dit que ces objets nous gênent encore pas mal, nous apportent pas que des avantages, mais aussi un peu de gêne. Parce qu'ils ne sont pas nés avec nous. Il dit, ils ne grandissent pas avec notre corps. Et il rajoute, on est en 1930, nous allons sûrement, je cite à peu près en mémoire, nous allons sûrement faire beaucoup de progrès sur ce point. Et effectivement, ce que moi j'ai envie d'appeler, par extension des questions que Freud pose à ce moment-là, nos prothèses numériques, qui ne sont pas seulement les ordinateurs, les téléphones qu'on utilise tous, mais aussi les logiciels et les langages informatiques, qui, à mon avis, sont des prothèses maintenant qui grandissent, avec lesquelles on grandit. Les enfants d'aujourd'hui naissent, pour eux, c'est évident d'avoir ces prothèses-là. Pas seulement d'avoir le portable des parents très petits. Ça, c'est des inconvénients qui ont été beaucoup décrits sociologiquement ou par des pédagogues, par les questions de comment le numérique nous change le rapport à l'attention, à la disponibilité des parents, des enseignants. Mais il y a, à mon avis, un changement plus structurel qui s'opère actuellement, c'est dans la langue. C'est-à-dire que quand un enfant dit très vite, utilise très vite le terme d'algorithme ou de programme pour des questions dans des domaines différent du domaine d'où viennent ces termes, le domaine informatique lui-même, il y a eu des glissements sémantiques qui font qu'on importe dans des tas de domaines, y compris dans le champ de la santé aujourd'hui, une manière de penser qui vient d'un langage binaire, un langage informatique. C'est ce qui fait qu'il y a des réflexes identitaires tout à l'heure, mais c'est ce qui rend complètement banal des démarches gestionnaires dans des champs, comme moi je travaille un peu encore à l'hôpital, dans des champs où c'est le dernier endroit où on aurait pensé, ou dans l'éducation, on aurait pensé que la comptabilité ou le gestionnaire allait prendre le pas sur une préoccupation du soin ou de la transmission d'un désir ou d'un savoir. Maintenant, à l'hôpital, on gère des flux de données. On ne parle même plus des patients. Mm. Il y a eu, pour vous donner un exemple, là, parce qu'on parle, c'est un peu abstrait, comme je le dis là, je pense. On parlait du dossier du patient pendant longtemps. Et après, on a, comme maintenant tout s'est informatisé, au ministère, ils nous demandent de mettre en place le DUI. Qu'est-ce que c'est ? C'est le dossier de l'usager informatisé. Mmh. Alors, c'est pas, vous voyez, ça n'a pas été écrit le dossier informatisé de l'usager.
Oui.
Maintenant, c'est le dossier de l'usager informatisé. Moi, j'entends l'usager est informatisé. Effectivement, on gère des données plus qu'un patient.
En fait, il y a une vraie menace, quoi. C'est une langue qui on peut qualifier de totalitaire. Enfin, tu montres beaucoup dans quelle mesure la parole se transforme en communication. Hein, on perd de la parole et ce langage devient totalitaire. Et alors, je ne sais pas si... on peut dire que c'est fait consciemment ou pas. Est-ce que ça vise aussi à surveiller, manipuler ? Alors, tu pars effectivement de plein de choses de notre quotidien que tout le monde partage, mais en fait, tu t'appuies aussi sur des recherches sémantiques. Et puis, en particulier, je trouvais ça très, très intéressant, l'origine du mot « ordinateur », quoi. Tu as parlé de Dieu, mais qui est une origine théologique, en fait.
Oui, que j'ai découvert en travaillant, en écrivant ce livre, qui au départ, effectivement, était un journal, une espèce de journal clinique. Et puis, j'ai eu envie de savoir un peu plus d'où venaient tous ces termes que je notais. Alors, je les notais comme, tu disais, ma référence et mon modèle, un peu en termes de méthode. C'est Victor Klemperer qui a écrit LTI, la langue du Troisième Reich. Mmh. On n'est pas dans les mêmes époques, mais on est dans un moment aussi où le changement de la langue, ça se produit tout le temps. Mais à des modifications vraiment fondamentales dans nos vies quotidiennes. Et alors effectivement, quand je me suis demandé tout d'un coup, mais au fait, d'où vient ce terme qui n'est qu'en France, hein, enfin ordinateur, parce que dans tout le monde anglo-saxon et dans beaucoup d'autres pays, ça a été plutôt traduit comme le terme computer au départ. Ça a été inventé par, fabriqué, les premiers ordinateurs ont été fabriqués par des Anglais et des Américains. Donc, c'est des computers, c'est plutôt du côté du calcul, c'est calculateur. Ça rapproche de la question de. C'était la question à la grecque ?
Oui.
Eh bien, pourquoi on dit ordinateur en français ? Il se trouve qu'en 1960, quand IBM a voulu commercialiser son dernier ordinateur en France, j'oublie son petit nom qui était un numéro, IBM 603 ou 600 quelque chose. IBM France s'est demandé comment ils allaient traduire le terme computer. Et le chargé de commercial, le directeur commercial d'IBM France s'est souvenu qu'il avait eu comme prof à la Sorbonne, dans je ne sais pas quelles études, il avait croisé le professeur Jacques Perret, qui était un théologien catholique et un philologue. Philologue comme Victor Klemperer. Et il s'est souvenu que c'est un prof qui leur disait beaucoup de choses sur les conséquences dans le présent des racines terminologiques. Et donc, il a envoyé le manuel de cette machine, de l'IBM, à Jacques Perret, en lui disant, d'après la description de cette machine, vous, comment vous l'appelleriez en français ? Et Jacques Perret répond, c'est une lettre que j'ai transcrite dans le livre.
Oui.
Propose différents termes. Donc c'est assez drôle parce qu'on voit à quoi on a échappé. Systémateur, j'ai plus en tête là, mais il propose. Et le premier qu'il propose, c'est ordinateur, parce qu'il dit, si j'ai bien compris, votre machine, c'est pour mettre de l'ordre. Mmh. Au départ, c'était des tableurs, c'était surtout des machines pour gestionnaires de stocks commerciaux. Il dit si c'est bien ce que j'ai compris, si c'est un ordinateur, on pourrait utiliser ce terme. Si c'est pour mettre de l'ordre dans le monde, si c'est ce que vous voulez faire, vous pourriez appeler ça, comme on disait en théologie au XVIe siècle, c'était un adjectif, on disait Dieu ordinateur du monde au sens
ouais,
Dieu qui organise le monde. Et c'est un terme qui a été gardé par IBM France et qui a fonctionné.
Ouais.
Ce qui, à mon avis, montre qu'il y a une logique, comme tu disais Stéphanie, une recherche, une visée totalisante dans le discours informatique.
Bon, on revient d'ici quelques petites secondes. Je propose une première pause musicale. Nous allons écouter Sanseverino, Démolissons les mots.
Exterminons-tu ou démolissons les mots ? Faites cet effort pour moi. Ça ne vous ressemble pas, mais forcez-vous. Une fois, je m'explique pourquoi. C'est le fruit de recherches et de travaux nombreux que j'ai faits à l'école dans des cours de français. Je voulais me passer des mots, mais toujours vous parler. Depuis la nuit des temps, mes travaux n'avancent pas, la nuit ne détend pas. Elle énerve plutôt comme vouloir se parler sans les utiliser. Le braille, ça fait mal aux oreilles, autant que les pieds font mal aux orteils. Comment communiquer communément s'il faut démolir sans les mots? Plus jamais le mot mot dans ta bouche, mais j'aime les beaux mots qui me touchent. Je n'ai plus que mes deux mains pour te toucher, c'est bien. Plus jamais le mot mot dans ta bouche, mais j'aime les beaux mots qui me touchent. Je n'ai plus que mes deux mains pour te toucher, c'est mieux. Les mots sont démolis, la misère est au lit, on s'ennuie sans parler. Comment va-t-on faire pour se dire touche-moi les seins et au creux de terrain? Les mots ont disparu, tu n'en entendras plus parler avant demain. Parlons avec les mains et allons nous coucher. Démolissons les mots, démolissons les mots.
Oui, voilà, nous voilà de retour avec Sanseverino. Enfin, on écoutait à l'instant, pardon, Sanseverino, démolissons les mots. Voilà, alors on revenait à l'instant sur l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui un ordinateur, qui est une origine divine, et on touchait aux questions même de la rationalité, Isabelle.
Oui, oui, oui. Et
d'une rationalisation, finalement, de nos paroles. Enfin, nous sommes toujours parlés, certes, mais là, on veut nous parler d'une certaine manière. Et sans s'en apercevoir, consciemment ou inconsciemment, on a besoin de réutiliser les mots de cette novlangue, ces mots issus de l'informatique, qui nous empêchent, finalement, de nous parler nous-mêmes.
Oui. Ce qui m'interpelle dans cette perspective, c'est que l'intelligence devenue calculante, rationnelle, est une intelligence finalement qui a oublié sa profondeur et donc sa dimension habitée. Et je pense que le langage, si c'est le propre de l'homme, renvoie dans cette perspective de la pensée calculante une prise de pouvoir. La prise de parole est une prise de pouvoir et l'homme veut occuper la parole comme il occupe le devant de la scène et n'écoute plus. Et cette faillite du langage qui est un appauvrissement des mots est en réalité une faillite de l'être de l'homme. Jan Diner, vous le dites à la page 18 de votre livre, le code du langage est implicite, plus ou moins intégré par chacun, dites-vous, il n'est pas rappelé explicitement à tout bout de champ. Si nous le mettons en relief en permanence jusque dans nos plus simples gestes, s'il en est question tout le temps, alors il y a moins de marge pour la parole. Si le système de codage devient totalisant, on entre dans le confort de la masse. Et la polysémie dont Stéphanie parlait, les malentendus, l'équivoque, le sens de l'humour deviennent dangereux. Et plus que du sens de l'humour, j'aimerais parler de ce que Nietzsche entend comme la pensée subtile. Cette pensée subtile qui fait le style et qui fait l'homme de l'écoute. Et cet homme de l'écoute, avant Nietzsche, Platon y avait beaucoup insisté. Platon qui vivait une révolution, comme on la vit aujourd'hui avec le numérique, mais une révolution qui était le passage de l'oral à l'écrit. Il voyait dans le Phèdre une perte de la parole. Et rappelant le mythe de Teute, il dit que ce langage écrit roule tout seul. Je cite le texte. Il roule tout seul parce qu'il est orphelin. Orphelin, il n'a plus de père. Nous parlons tout seuls aujourd'hui, confinés devant nos écrans d'ordinateur. Nous ne nous adressons plus aux autres. Nous sommes des êtres monadiques, isolés. Et ça ne date pas que d'aujourd'hui avec nos ordinateurs. Mais c'est peut-être ce qui habite le tréfonds de l'homme qui veut le pouvoir. Et c'est bien là pour moi le problème. Qui cherche à posséder.
Et c'est ce qui t'apparaît dans cet ouvrage de Jan Diner.
Très intéressant cet ouvrage parce qu'il pointe l'homme de l'hubris, de la pléonexia, c'est-à-dire qui accumule des codes, des mots pour se donner l'illusion, alors vous parliez, hein, j'ai noté, du dieu prothétique, c'est très intéressant, des prothèses verbales, pour se donner l'illusion d'exister, mais ce n'est qu'un ersatz d'existence, parce qu'il n'est pas relié, j'enlève le mot connecté, à son père. Profondément, nous ne sommes pas des êtres isolés. Et si nous nous isolons, nous ne parlons plus.
C'est peut-être un désir de, dans des termes plus psychanalytiques, on dit avec nos mots à nous, parce qu'on est aussi avec des mots de chaque champ comme ça.
Bah oui.
Peut-être d'un désir, de pouvoir, de contrôle, de pulsion d'emprise, de contrôle, dans l'angoisse face au grand mystère de l'existence. Il y a une angoisse existentielle ou même quotidienne, l'angoisse tout court. Peut-être que si nous mettons autant d'énergie à développer et à intégrer dans nos corps auxquels on participe tous, hein, c'est autant de prothèses, c'est pour contrôler. Alors, on contrôle de tous les échanges entre nous, on essaie de contrôler notre parole, dans lesquelles on peut souvent se prendre les pieds dans la parole, on fait des lapsus, on perd le contrôle, donc on renforce ce contrôle avec ces petites machines. Et quand je dis on est tous concernés, parce qu'on utilise ces termes-là, c'est pas seulement quelqu'un qui utilise ou trop son téléphone. Moi, le premier, j'utilise beaucoup ces outils-là qui ont plein d'avantages. Ils nous apportent sûrement beaucoup d'avantages, mais peut-être d'illusions, c'est peut-être pas si loin comme terme, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'avantages qu'on les développe autant, qu'on est avec autant d'intelligence calculante, comme vous disiez. On se rend compte après coup qu'on a perdu quelque chose quand on a fait le pari de la communication contre la parole. Mais c'est vrai que maintenant, on entend plus des gens qui se plaignent de ne pas arriver à bien communiquer. Même dans un couple, même des patients qui viennent nous voir en disant « je n'arrive plus à communiquer avec mes enfants ».
Et en fait, il ne s'agit pas de communication, mais bien de parole.
Enfin, si déjà on fait entendre, des fois je le dis à des collègues qui disent qu'ils n'arrivent plus à communiquer entre eux, si je le dis, c'est un peu ironique, donc ça ne passe pas trop. Si je dis, est-ce que vous avez essayé de parler ? L'idée, c'est quand même de rappeler que la communication, c'est bien pour certains registres, les mails. On se rend compte que, pour donner les coordonnées de la réunion d'aujourd'hui, je dis réunion de l'émission, parce qu'on arrive à se parler, donc je dis une réunion de... Si j'avais fait de l'humour, si vous aviez envoyé les coordonnées de Radio Aligre en faisant des mots d'esprit, ça aurait pu prêter à confusion. La communication, ça sert à échanger des informations. Mmh. Mais quand on veut se dire des choses, ce qui n'est pas pareil, on essaye de les dire un peu plus directement. La communication... c'est un échange d'informations. Lacan, ce que vous dites à partir de Nietzsche, moi, ça me fait penser à Lacan qui disait que la parole a de l'épaisseur et que l'information, déjà dans les années 50, Lacan regrette que, y compris les psychanalystes, soient dans la mode de la théorie de l'information, à partir de tout du pouvoir que prennent les psychanalystes anglo-saxons. Et il s'insurge contre ça. Il fait la différence dans ces termes-là. Il dit la parole, le langage qui nous intéresse, c'est la parole de nos patients. Il dit qu'elle a tellement plus d'épaisseur que de l'information.
Et la parole, en fait, je ne sais pas si cette épaisseur de la parole, on pourrait dire qu'en fait, c'est le fait qu'elle soit incarnée aussi. Parce qu'il y a un de tes chapitres qui a pour titre « Où sont les corps ?» Et effectivement, on voit ce déplacement entre parole et simple communication, ou confusion entre la communication et la parole. Hein. On veut transformer la communication en parole et vice-versa. C'est aussi un thème... qui nous préoccupe en tant qu'enseignants, puisque tout bascule, et en tant que directrice de programme, tout bascule en visio. Tu as toute une analyse aussi de ces termes présentiels, distanciels, et tout ce qui se joue là-dedans, et là aussi, c'est encore une langue qui est banalisée. Alors, en même temps qu'on... Le corps disparaît, il y a aussi, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais il y a aussi une volonté de contrôle, de surveillance. Je ne sais pas si tu as pensé, quand tu as créé ton titre, LQI, ou QI, qui était aussi en son temps une manière, enfin qui l'est toujours, hein, une manière très binaire de classer les choses et de surveiller et de contrôler. Voilà.
C'est pas venu directement, je l'ai entendu après, mais déjà, j'avais pas pensé à Elkuik comme titre, c'était présent dans le livre, mais c'est l'éditrice Caroline Rowe des Belles Lettres qui m'a dit faut changer le titre, parce que j'avais un titre très compliqué, c'était Le codage permanent, avec un sous-titre que j'ai oublié tellement c'était. Et elle a eu la très bonne idée, j'étais sceptique au début, mais elle a eu très bonne idée de faire venir ce trigramme, comme elle disait, le sigle LQI, en titre et en couverture, parce que ça intrigue un peu. Ça peut, si on connaît la référence à LTI, ben on se demande quel rapport avec LTI. Si on le connaît pas, ça peut. Bon, puis il y a un sous-titre donc qui explicite un peu. Mais j'avais pas entendu qu'il y avait aussi la caution intellectuelle dedans. C'est.
J'écoute ce que vous dites, Yann Diner, et je suis étonnée des point de similitude que l'on peut faire avec Claude Agege qui crie contre le globiche, ce franglais qui envahit notre langue, et relativement à ce que vous dites sur cette épaisseur des mots, je pensais au film d'Almodovar Parle avec elle. Et c'est un film qu'on ne traduit pas, de l'espagnol, communique avec elle. Et ce qui relie l'aide-soignant à cette jeune femme qui a le coma, c'est un langage qu'il lui adresse avec le pari de la foi. Elle m'écoute, elle m'entend, et ce que je lui dis va la guérir. Donc je crois que dans cette possession des mots, toutes ces prothèses qui surgissent d'une pulsion de contrôle et d'une angoisse, vous nous en avez parlé, il y aurait peut-être dans le langage d'une pensée méditante la parole qui naît du silence, c'est-à-dire une parole qui naît de plus grand qu'elle et donc qui écoute, une parole qui n'est pas soumise mais qui obéit, parce que si l'on en croit le verbe obéir, ce n'est pas une soumission, mais c'est une écoute, ou dirait, ob, avant nous. Et cet avant, j'y tiens beaucoup, c'est le père dont je parlais, c'est l'origine, c'est la source qui nous fait parler. Mais si nous n'écoutons pas, nous ne pouvons pas parler à l'autre. Et donc, nous isolons nos mots et ils deviennent des forteresses ou des clôtures, des claustrations, dirait-on, ou des prisons. Et dans ce beau film, précisément, cette aide-soignant va guérir cette jeune femme. Et il y a quelque chose dans la parole qui est salvateur dès lors que cette parole laisse place à l'autre.
Alors, c'est pas du tout à la mode, vous savez, aujourd'hui, le fait de parler et de s'écouter à l'hôpital, ça part pourquoi ? Parce qu'il y a eu une étude qui a montré que les soignants perdaient 30% de leur temps à se parler. C'est comme ça que ça a été écrit à la PHP, à la Science Publique Hôpitaux de Paris. C'est un des exemples d'écrasement du soin et de l'écoute par la gestion. Dans ce qui est prévu pour être l'hôpital numérique, on dématérialise même les hôpitaux. L'hôpital de Nantes est aujourd'hui pilote pour l'hôpital de demain, l'hôpital numérique. Ça, l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle dans la novlangue le virage inclusif, c'est-à-dire de, soi-disant, d'inclure les gens, de réinclure les gens chez eux, c'est-à-dire les décourager de venir à l'hôpital, parce que ça coûte cher, c'est de l'argent. Effectivement, il y a un coût, il faut. Et il y aura de moins en moins de choses réelles, ou comme disait Stéphanie, dans la présence ou dans le présentiel, comme on dit dans cette langue quotidienne informatisée. Et bien, il a été montré qu'effectivement, les soignants se parlent, mais ça a été jugé comme une déperdition d'énergie et d'efficacité dans les actes mécanisés, même à l'hôpital. Et donc, une appli a été créée, parce qu'on peut toujours compter sur les start-up, sur le génie français pour être à la pointe, puisque si on est une start-up nation, il y a plein de start-up qui se développent. Ouais. Et une jeune start-up a proposé une nouvelle appli de messagerie entre les soignants et l'hôpital pour mieux communiquer et pas perdre de temps à parler, et surtout pas parler avec les patients. Vous savez que les roulements maintenant des infirmiers et des infirmières, c'est même la nuit, mais ça c'est écrit, hein, noir sur blanc, dans les projets d'établissement des hôpitaux, c'est qu'il ne faut pas que les infirmiers soient deux nuits de suite, c'est pas pour leur bien-être, hein, c'est calculé en fonction du risque d'attachement au patient. Parce que l'attachement au patient, ça pourrait créer un problème d'objectivité et puis un peu trop de présence, ouais, certainement. Ça, c'est... Et donc, on fait tourner les soignants pour qu'ils ne soient pas dans un lien trop important de la parole, pour qu'ils restent, qu'ils gardent une technicité, comme c'est dit.
Tout à fait, et on voit ça dans tous les domaines d'ailleurs. Hein. On voit ça depuis déjà des années dans les bibliothèques où finalement le magasinier n'est pas quelqu'un qui va rester sur son poste. Hein. Le magasinier, c'est celui qui apporte les livres régulièrement. Personne ne reste à son poste. Tout doit tourner parce qu'il s'agit de détacher la personne d'une fonction, je dirais, d'une connaissance, d'une spécificité de son poste, et faire tourner les gens d'un poste à un autre pour qu'ils ne s'attachent jamais à leur fonction et finalement qu'ils n'aient jamais peut-être la possibilité d'un regard critique, en fait, et de faire remonter certaines informations. On le voit partout. Et c'est, pour revenir sur l'enseignement, c'est la force de la philosophie, puisque là, on faisait une différence entre la communication et la parole, ou la langue, le langage plutôt. Hein, en philo, on essaie de dire aux élèves que communiquer, ça n'est pas parler, hein, c'est complètement deux choses différentes. On voit bien qu'aujourd'hui, ce qui est en jeu dans cette nouvelle langue issue de l'informatique, c'est de ne plus faire fonctionner, je crois, une parole critique, de mise en question, que ce soit la mise en question de soi-même ou le regard sur soi, hein, ou qu'on pouvait appeler autrefois la connaissance de soi-même, mais simplement arriver à se parler soi-même, à travers soi, parler autrement le monde. Puisque finalement, ton ouvrage LQI, notre langue quotidienne informatisée, c'est une manière de nous parler et de parler le monde, de l'habiter aussi. Or, la communication, elle veut nous faire habiter d'une certaine manière ce monde, elle veut que nous nous structurions autour d'une certaine subjectivité, sans possibilité de nous ouvrir à autre chose que ce que nous devrions être, hein, c'est-à-dire de pures fonctions, hein, de pures unités fonctionnelles dans la société. Mais,
on parle de la langue des fonctionnalités. Mm. Alors, on dresse un tableau un peu sombre, là. Alors, je voulais dire, en parlant de Claude Agège, dont vous avez parlé tout à l'heure, il m'a appris, j'allais au cours du Collège de France de Claude Agège, et c'est un homme qui parle tellement de langues, et qui dans la même phrase peut passer d'une langue à l'autre, mais des langues très 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 différentes, et donc il joue avec, il réintroduit de la polysémie, des équivoques, là où les choses peuvent se refermer. Moi, en même temps, effectivement, ça m'intéresse de repérer où nous parlons une langue technique et fonctionnalisante qui risque de nous refermer, Mais ça, j'ai envie aussi d'entendre et de repérer où et de faire aussi avec les créations. Mmh. En ce moment, je trouve beaucoup des plus petits d'entre nous, parce qu'ils gardent peut-être un lien encore plus avec une langue ou une langue maternelle, où ils s'autorisent un peu plus de parler autrement, les petits. Ils rentrent pas tout de suite dans le... En tout cas, ils gardent un peu de souplesse. Mmh. Même si les jeunes, comme on dit, utilisent beaucoup de sigles avec les textos, on se moque suffisamment, on s'inquiète suffisamment de l'écriture par texto, et ben moi je trouve que ce sont les premiers à nous montrer qu'ils ont un pouvoir de subversion de ces sigles que nous, peut-être, nous avons moins parce que nous les avons intégrés. Et on les construit, on les a beaucoup construits. Et alors, en même temps, les adolescents, par exemple, vont utiliser en MDR, par exemple, c'est un exemple que j'aime bien donner, parce qu'ils disent, pour pas dire toute la phrase qui est longue, dire mort de rire à la fin d'un texto pour dire à quelqu'un. Ça les a fait. Il disait facilement MDR. Mais moi, j'ai un jeune patient à qui je donnais une interprétation que j'essayais un peu drôle pour faire passer quelque chose que j'avais pu entendre de tout ce qui l'écrasait dans sa vie. Et là, il me répond, il sourit et il me répond « maison de retraite ». Alors, je ne comprends pas, je questionne du regard. Il me dit « ah, vous ne savez pas qu'on ne dit plus MDR ?» C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont réutilisé le sigle au lieu de dire MDR. Ils ont Ils disent maison de retraite pour dire ce que tu me dis me fait rire. Ils détournent le sigle. Ou autre chose, un enfant, une petite qui... Stéphanie, tu parlais du sigle TDAH pour les troubles déficitaires de l'attention. Une petite de 7 ans qui vient me voir à mon cabinet et qui me dit, quand je lui demande pourquoi elle vient, qui me dit, ben, je viens parce que je suis TDAH. Et ça me fait froid dans le dos. Parce que un enfant qui dit à rigueur, je viens parce que je suis agité. Ouais, mais qui, un enfant qui est autant... intégrer une étiquette comme ça, nosographique, très réductionniste. Et quand je lui ai demandé, mais est-ce que tu sais ce qu'il y a dans ceci, quelles sont les lettres, elle ne savait pas, on les a décomposées. Et elle a tout de suite joué à détourner ce sigle TDA en disant, ah oui, mon père, il est pas TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, il est TDAT. C'est-à-dire, elle m'explique, il est trouble déficitaire de l'attention avec télévision. Parce que quand je rentre de l'école et que je lui raconte ma journée, il ne m'écoute pas parce qu'il regarde la télévision. Et donc, elle a annoncé à son père en sortant, elle avait fait le diagnostic, qu'il était TDAT. Vous voyez, ça me donne un peu de perspective et d'espoir.
Donc, ça serait un lieu, le domaine de l'enfance encore, où cette langue ne sévit pas, quoi. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que...
En tout cas, il s'autorise à subvertir un peu plus notre novlangue quotidienne.
Ouais. Est-ce que c'est une question d'âge? On peut être encore enfant.
Oui.
C'est pas chronologique.
Un âge certain. Ouais. Et je crois que...
Comme Claude Agege, par exemple. Lui,
comme Claude Agege, c'est un gosse, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il a cette force poétique de l'invention, de la pensée, de cette vivacité de la pensée. Et j'aime beaucoup l'idée développée dans l'acheminement vers la parole de Heidegger, où il est question, là encore, de faire place à... cette force de surgissement créateur qui habite les mots. Et là, je crois que c'est la note positive que vous engagez dans votre discours, Yann, c'est-à-dire croire en l'homme, croire en ses capacités de renouveler constamment les mots, la parole, et de les détourner. Cette force de tourner en dérision, de détourner de l'humour, de la subtilité, aucune machine pourra jamais, comme les hommes, le faire. Et je crois que c'est super. Il faut habiter le monde en poète.
Alors, je propose une petite pause musicale avec justement Foule Sentimentale. Alain Souchon.
Sentimentale. voir comme on nous parle, comme on nous parle.
Voilà, nous sommes de retour. Merci à monsieur Alain Souchon. On est en train de parler d'une langue codée qui cherche à encoder et qui encode. Et comment finalement l'être humain, croyons en l'homme, est capable de détourner cette langue qui cherche à nous encoder. Nous sommes avec Yann Diener pour son ouvrage « LQI, notre langue quotidienne informatisée », paru aux Belles Lettres en février. Stéphanie Ronchevski de Gore qui nous a proposé cette belle émission aujourd'hui. Donc laissons la parole, Stéphanie.
Oui, alors ce que j'ai trouvé aussi également intéressant, c'est les différentes figures qui apparaissent dans ton livre. Alors, tu parles d'Elon Musk et de ses projets d'implants cérébraux qui permettraient de connecter le cerveau et un ordinateur, c'est ça, et qui en fait pourraient annuler finalement la distance entre le désir et la demande. Et ça m'a fait penser, moi, au fait qu'au programme de philosophie, on a fait sauter le désir. Il n'y a plus le désir au programme. Bon, voilà, c'était une petite parenthèse. Et puis la deuxième grande figure, c'est évidemment Alan Turing. Le deuxième chapitre s'appelle Alan Turing comme vous et moi. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu le titre et aussi la comparaison que tu fais entre Freud qui déchiffre l'inconscient qui cherche à déchiffrer l'inconscient et Turing qui déchiffre la réalité. Hein. Jusqu'où va la comparaison voilà.
Alors, on dit souvent qu'un tel parle comme une machine ou on a dit les autistes sont comme des ordinateurs, ils sont plus dans le calcul et le raisonnement que dans la parole. Ils communiquent très bien, ils peuvent être de grands calculateurs, mais ils sont très mal à l'aise dans la parole ou dans les relations sociales. À mon avis, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est pas que les autistes parlent comme des machines, c'est que les machines ont été construites au départ. C'est une des rares technologies qui repose autant sur une seule personne. Alan Turing était un mathématicien qui aujourd'hui, c'est pas le cas de tous les matheux non plus, mais aujourd'hui serait, je pense, très facilement, très rapidement dès l'école, diagnostiqué autiste Asperger. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les autistes de haut niveau. Turing, il arrivait à résoudre des problèmes de maths que ses professeurs au lycée n'arrivaient pas à résoudre. Il était puni quand il faisait de l'algèbre en cachette pendant les cours de catéchisme. Il a très vite fait des études de maths à Cambridge. Il a été très vite repéré comme très doué en cryptologie, parce qu'il était très à l'aise avec des domaines très compliqués en maths, en probabilité. Tout ça pour dire qu'il avait besoin, lui, de prothèses. Turing, dès l'enfance, dit qu'il est très mal, et repère parce qu'il est très mal avec la parole. Il veut construire des machines. Et en 36, donc à 24 ans, il écrit un article fondateur des nombres calculables, qui reste encore l'article de référence de toute l'informatique théorique, et c'est encore la base de toutes les réflexions sur l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il a fait le projet d'une machine qui au départ était très abstraite, mais qui a donné le modèle de construction des ordinateurs. Donc nous pensons tous comme Turing nous a dit à un moment donné, les bulletins scolaires de Turing, c'était « il ne communique pas assez ». À mon avis, nous sommes sous l'injonction à laquelle Alan Turing a répondu, en nous proposant des machines qui pour lui au départ étaient un jeu, mais ça a marché tellement bien qu'on les utilise tous les jours dans cette injonction de mieux communiquer, dans notre risque que nous avons de parler de travers.
Eh ben, Stéphanie, un dernier mot pour conclure l'émission. Non, je te donne la parole beaucoup trop vite. Alors on va peut-être...
Je finis là-dessus si on a encore 2 minutes.
Oui, 2 minutes parce que voilà, je pense qu'il y a...
C'est que Turing a inventé aussi quelque chose. C'est quand même la personne qui a le premier inventé la notion de programme. Les algorithmes existaient depuis les Grecs, mais le programme qu'on fait tourner sur une machine, c'est Alan Turing qui a eu cette idée. Et pour que ça marche, il a eu l'idée... pour communiquer pour le coup avec les machines, il y a un langage, c'est le seul langage que peut comprendre et un être humain et une machine, c'est le langage binaire. Et on est très très organisé aujourd'hui, à mon avis comme sous une forme d'un traumatisme, par le fait que ça a marché, ce qu'il a proposé Turing, parce qu'il a dit on va marcher, on va parler avec ces machines en base binaire, que en 0 et 1, parce qu'une machine peut parler le 0-1 parce que ça peut être ou allumé ou éteint. Et après, on a créé des langages intermédiaires, des langages interfaces pour pour bien se comprendre, mais ce langage binaire qui a quand même compté beaucoup, y compris dans la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est grâce à ces programmes que Turing a craqué le code nazi, la machine Enigma qui était la base des communications militaires allemandes. À mon avis, sous une forme de traumatisme, nous, comme ça a très très bien marché, c'est très idéalisé, ça a servi aux alliés, nous continuons à coder et à décoder en permanence, comme Turing a eu l'idée en 1936. On est coincé dans ce moment-là, à mon avis.
Oui. Moi, j'aimerais quand même dire, pour finir, que même si on dit des choses très très sombres, ce livre, LQI, est tout à fait jubilatoire et on s'amuse beaucoup, beaucoup à le lire et à décrypter des tas d'éléments de notre langage.
Et un petit clin d'œil, je me permettrai de clore là-dessus, puisqu'il y a une très belle exposition sur Champollion au Louvre, et vous parlez de Champollion, Yann, page 36, vous dites qu'il a eu une syncope après avoir compris la prévalence du signifiant sur le signifié.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à Yann Diener d'être venu nous voir aujourd'hui. Nous recommandons chaleureusement son ouvrage, LQI, notre langue quotidienne informatisée. Stéphanie Ronchevski-Degore nous a proposé cette émission aujourd'hui. Merci Stéphanie,
beaucoup.
À très bientôt.
Merci.
Et l'émission sera en podcast grâce à Axel qui était là aujourd'hui, Axel Dumez. À la technique, merci Axel de ton aide précieuse. Chers auditeurs, bonne fin de journée à tous sur Radio Aligue. Merci beaucoup.